Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, vous vous souvenez, il y a 15 jours, nous avions entamé une réflexion sur l'histoire, la vie de David. Et il avait été question de ce chapitre où le roi David, à la fin de sa vie, a voulu faire un dénombrement des forces, de ses forces armées en Israël. Alors, on va reprendre 2 Samuel, chapitre 24. Mais je vais reprendre la lecture à partir du verset 10. Voilà, on va aller un peu plus loin cette fois-ci, parce qu'il y a quand même une belle leçon à travers ce récit où David reçoit ce témoignage de Dieu, témoignage de toute la Bible, où il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous nous apercevons d'une chose, c'est qu'il n'est pas exempt de faiblesse, d'erreur. Alors c'est peut-être rassurant pour les hommes que nous sommes, les hommes d'aujourd'hui, de savoir que non pas un encouragement à nos faiblesses et à nos erreurs, mais d'avoir la véritable attitude que nous allons découvrir au fil du temps. Eh bien, l'attitude, la spontanéité de David à reconnaître les fautes et les erreurs qu'il a pu commettre. Alors, 2 Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gath le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de paix dans ton pays ? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Ô, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Voilà. Alors vous connaissez, parce que vous l'avez certainement lu et relu, et vous vous souvenez que la colère de Dieu s'est manifestée contre David, contre Israël d'abord, et de cela a découlé, une pensée saugrenue chez le roi David, de vouloir faire le démembrement de la nation d'Israël et de Juda. Alors, on s'est expliqué la fois dernière, et à ce titre, le roi a donné mandat à Joab, qui était le général en chef, son général en chef, d'aller dans toutes les provinces et dans toutes les régions d'Israël pour compter tous les hommes à partir de 20 ans jusqu'à peut-être 50 ans, capable, en capacité de porter les armes, donc de devenir potentiellement des soldats, des hommes de guerre. Alors on va reprendre notre histoire à partir du verset 3, où il nous est simplement dit ceci, je lis, « Joab dit au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient, mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et au chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement de tout le peuple d'Israël. Alors d'abord, Joab, disons quelques mots, c'est le commandant en chef des armées de David, chef de l'armée d'Israël, et Joab n'a jamais été, comment pourrait-on dire, un homme reconnu pour ses scrupules. C'était pas certainement quelqu'un qui se caractérisait par finalement une très grande et très belle spiritualité. C'était plutôt un homme double, un arriviste, un attentiste, et nous le voyons cette fois-là, en tous les cas, prendre une bonne position et vouloir conseiller le roi David de ne pas faire ce qu'il avait l'intention de faire. Et nous voyons qu'il va protester contre les projets, donc, du roi David. Et il lui dira, mais pourquoi le roi prend-il plaisir à cela? Le roi, mon seigneur, veut-il faire vraiment cela? Et Joab savait que si le roi persistait dans cette disposition, il y aurait vraiment un problème. Là, il y aurait vraiment un problème. Le roi David n'avait pas vu la difficulté qui allait surgir, mais Joab, lui, eh bien, voit que cela va entraîner véritablement des conséquences graves pour Israël. Mais rien n'arrête David. Il a pris une décision, il est roi, et le péché, si l'on s'en tient à David, apparaît toujours, le péché d'hier comme d'aujourd'hui, apparaît toujours comme quelque chose d'irrésistible, qui rend les gens têtus, qui les rend obtus. Lorsqu'ils ont quelque chose en tête, ils veulent y arriver. Et tant que le péché n'a pas été consommé entièrement, c'est ce qui va se passer, eh bien, il obnubile les hommes. Et David, dans cette situation, était parti sur une idée d'aller jusqu'au bout du recensement, du dénombrement, et il est complètement obnubilé. Il n'y a plus qu'une chose qui compte dans sa vie, c'est véritablement compter les hommes, ses forces armées en Israël. Ça paraît quelque chose d'assez anodin comme situation, mais c'est plus grave que ça n'en paraît, parce que nous allons le voir. Alors, les officiers vont être mobilisés et vont faire systématiquement le tour du pays, du nord jusqu'au sud, de Dan à Beersheba, de l'Orient à l'Occident, et ils vont inscrire tous les hommes, des jeunes gens, des hommes, donc, sur des listes, et tous ceux qui sont en âge de porter les armes vont être mis sur ces rôles-là, et ça va durer à peu près pendant 9 mois, avec un total éloquent de 1 300 000 hommes. Ça représente quand même quelque chose, hein. Vous vous rendez compte, pour un petit pays comme ça, 1 300 000 hommes en état de porter les armes, donc en Israël. Et on pourrait se dire, mais alors, maintenant que les choses sont faites, David va être fier d'aligner une armée si puissante. Or, nous nous apercevons que il a oublié quelque chose, David, dans cette affaire. Parce que l'histoire en général nous rapporte que l'homme spirituel, eh bien, fait attention. Et David ne fait pas attention dans cette situation. Mais il y a quelque chose à la décharge de David, c'est qu'il va reconnaître immédiatement là où il a péché. Et c'est ce que nous dit versement le verset 10, que nous avons lu tout à l'heure, et j'y reviens. David, à ce moment-là, après avoir reçu tous ses émissaires qui avaient été de droite et de gauche pour, numériser ses forces armées, quand il va les voir revenir, au lieu d'éprouver, une satisfaction parce que son plan a été mené finalement jusqu'au bout, il nous est dit qu'il a senti battre sur son cœur après qu'il eut fait le démembrement du peuple. Et nous voyons que si la voix des hommes, y compris Joab, qui était son général en chef, n'a pu ramener à la raison David, eh bien nous voyons que sa conscience à David va parler à ce moment-là. Et vous avez remarqué l'expression qui est employée, il a senti son cœur battre très fort. Ensuite, une fois qu'il a vécu cette expérience d'avoir éprouvé ce sentiment d'avoir commis la faute, d'avoir commis quelque chose qu'il n'avait pas à faire, alors ça va être confirmé le lendemain par la parole de Dieu. Nous l'avons lu, le lendemain, la parole de Dieu lui fut adressée, et c'est un prophète qui s'appelle Gad, qui va aller voir David, mandaté par Dieu, et nous voyons que là, il va entendre quelque chose, David. L'histoire du démembrement a déplu à Dieu. On pourrait dire que pour un roi, c'est normal de compter ses forces armées. Mais il y avait toutes sortes de paramètres qui n'avaient pas été respectés. Vous savez que lorsqu'il y avait un dénombrement, et ça c'était la loi de Moïse, eh bien il devait y avoir un écho, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une somme d'argent qui devait être versée au temple pour chaque homme en capacité de porter les armes. Et ça devait être versé au temple. Et là, David a complètement passé là-dessus. Alors, on le dit et on le redit, ça déplut à Dieu. Et pourtant, cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été nommé l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, va faire cette faute, c'est vrai. Mais à côté de cela, et c'est ce qui va permettre finalement à Dieu de relever la situation, c'est qu'une de ses indéniables qualités a été la promptitude à reconnaître ses fautes, donc à confesser ses péchés. Dès qu'il va sentir son cœur battre, dès qu'il va entendre le prophète Gad lui dire « Tu as fait fausse route, c'était pas ça ce qu'il fallait faire », à ce moment-là, eh bien, il va avoir une attitude d'humiliation. Il va pas dire « Oui, mais je suis le roi, mais j'avais raison de faire ceci, et puis cela, etc., etc. » Non, il va tout simplement, eh bien, s'incliner. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a un principe qui est rappelé par l'apôtre Jacques. Il dit ceci « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous ne soyez pas, eh bien là, sous le coup du jugement, etc. » Et il dira, et il exhortera l'Église que nous sommes aujourd'hui de prier pour ceux qui commettent des péchés. Et nous pouvons tous en commettre. Et il est dit ceci, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà. Donc ça, c'est le principe évangélique. Il y a naturellement le jugement de la loi dans l'ancienne alliance, parce qu'il est question de David, mais dans la nouvelle alliance, il est demandé de prier. Il est demandé de plaider. Il est à remarquer ceci, c'est qu'il est beaucoup plus anonyme, donc plus facile, de confesser directement à Dieu, entre soi et Dieu, que de le faire finalement devant les autres. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage. Alors il y a peut-être des circonstances, et nous l'avons vécu déjà ici dans cette église de Saint-Nazaire, où des gens ont tenu à dire quoi ? J'ai péché, nous avons péché contre Dieu, mais nous voulons aussi dire à nos frères la faute que nous avons commise. Ça, c'est très courageux. Parce que quand ça se passe entre Dieu et nous, bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'incognito, mais c'est difficile de le faire publiquement. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur la question, parce que ça relève de la conscience de chacun. Hein. Et on n'a pas à forcer les gens à dire, eh bien voilà, parce que moi je l'ai vu dans une certaine circonstance, où quelqu'un avait péché, et on a forcé un peu la main en disant, voilà, eh bien, tu vas te présenter devant tout le monde et tu vas demander pardon à tout le monde. La personne est venue pour la dernière fois à l'église. Elle n'a jamais remis les pieds. Ouais. Alors, faut faire attention parce que c'est quelque chose qui est quand même quelquefois, eh bien, assez. Si les gens le demandent en disant oui, vraiment, je m'incline et je reconnais, ou alors à ce moment-là, quand on a commis une faute contre quelqu'un en particulier, alors devant la personne, faut lui demander pardon. Ça, c'est autre chose. Mais souvent, devant une assemblée ou devant une église où les gens ne sont peut-être pas forcément tout au courant, il faut vraiment, et quand il est question, je pense, eh bien, de confesser nos péchés les uns les autres, c'est peut-être à ceux que nous avons offensés, à ceux que nous avons blessés, à ceux vers lesquels, eh bien, nous avons fait du mal, vers lesquels nous devons nous présenter pour demander vraiment pardon. Alors, il y a derrière cette volonté divine, c'est vrai, la confession mutuelle, on vient d'en parler, mais des promesses de réparation, et c'est ça ce qui est intéressant dans ce texte, de réparation, des promesses de rétablissement, de réhabilitation, de pardon et de guérison, pour que les choses soient complètes, parce que, on va le voir dans le détail, c'est que le péché rend malade. David, dans le psaume 32, en parle. Dans le psaume 51, pour une autre histoire, en parle, à tel point qu'il était malade à ne pas pouvoir trouver le sommeil jour et nuit, et ne pas pouvoir, eh bien, s'alimenter normalement. Alors Dieu veut véritablement le rétablissement et la guérison complète et totale. Et là, nous l'avons dit tout à l'heure, il sent battre son cœur et ça va déclencher chez lui quelque chose de particulier. Il y a cette sorte de péché qui ne nous apparaît pas toujours mauvais au premier abord, que seulement lorsque nous l'avons commis et consommé. Et après, à ce moment-là, on se dit « mais quelle erreur !» Et d'ailleurs, il le dit, hein. Maintenant, Éternel, d'elle pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Ça, c'est l'œuvre du diable, de nous amener dans une situation que nous n'avons pas pris toute la mesure et la gravité, et une fois que la chose est faite, on se dit, mais c'est terrible. C'est terrible que j'ai pu me tomber dans un tel piège. Alors, il y a le cœur de l'homme, il y a ses tendances, il y a ses faiblesses, il y a ses affinités pour cette propension à certaines choses. Mais les yeux s'ouvrent souvent une fois que nous voyons les conséquences que ça peut avoir. Et ça, c'est quelque chose de assez impressionnant. Et nous voyons, c'est quand David a eu connaissance des résultats du dénombrement que son cœur s'est mis à battre violemment. Et là, à ce moment-là, il était frappé de ce que nous pourrions appeler de remords. de regret, hein, parce qu'il s'est senti coupable. Il a été convaincu de son action insensée qui lui a fait dire, eh bien, j'ai commis un grand péché, tout simplement. Parce que le péché d'un homme peut avoir des conséquences, comme nous allons le découvrir, sur sa propre vie, ça c'est clair, hein. En premier c'est lui. Mais dans l'histoire, et nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu lui dit, mais attends, c'est le peuple qui va payer les conséquences. Alors tu choisis maintenant. Soit il va y avoir la famine, soit il va y avoir la guerre, soit il va y avoir la peste. Et ça c'est dramatique, hein, une chose pareille, parce que on prend conscience que le péché fait tasse d'huile. Alors, on peut parler de fièvre, on peut parler de folie, d'aveuglement, qui précède le péché. Parce que même s'il a été retenu par Joab, il n'avait jamais pris conscience que c'était une faute grave que le roi David commettait. Et nous voyons que ça, cette fascination restera toujours mystérieuse. Pourquoi le péché est si attirant? Pour un homme sage comme David, c'est étonnant, hein? Pour un homme qui priait Dieu, qui a composé des poèmes à la gloire de Dieu, qui a fait des choses, et là c'était à la fin de sa vie. Et on se dit, mais comment il est tombé dans tout cela? Parce que ça fait partie justement du mystère de l'iniquité. On a vu, et c'est pour cela que, il faut le dire et le redire, il faut faire attention quand on juge les autres, parce que ça peut très bien nous arriver nous-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant et de mystérieux qui relève non seulement du cœur de l'homme, mais qui relève d'une puissance d'aveuglement, une puissance de séduction. Où on a, je le disais, on a vu des hommes qui, ou des femmes, ou des chrétiens, très bien assis et sérieux, et d'un seul coup, voilà. Et c'est vrai que c'est quelquefois assez troublant, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a pu? Il y a des pièges, hein, qui sont tendus d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Et il y avait comme un pouvoir soporifique, comme un pouvoir anesthésiant sur David. Il n'a même pas pu, finalement, eh bien, réagir dans tout cela. Et ça, c'était envoyé par l'adversaire. Et c'est souvent le lendemain de la faute, quand on se réveille. Vous savez, les lendemains qui déchantent, hein, avec vraiment un mal au niveau de son cœur, de sa conscience, que là, eh bien, on s'aperçoit de toute l'importance de la gravité. Et il le dira, je le répète, j'ai agi en insensé. Là, il prend conscience de ce qu'il a fait. Il y a aussi chez David un trait qui mérite d'être relevé. Devant l'énormité de son péché dont il a conscience maintenant, il n'attend pas que quelqu'un vienne lui indiquer son erreur. Il est capable de s'auto-accuser lui-même, de s'humilier devant Dieu. Et c'est ce qui a permis finalement, eh bien, que Dieu envoie le prophète Gad pour lui dire ce qu'il avait à dire. Parce qu'autrement, s'il avait été endurci, David, je suis sûr que le prophète ne serait pas venu, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Mais nous voyons que Dieu envoie le prophète Gad, et à ce moment-là, sa conscience est alors préparée à entendre et recevoir le verdict de Dieu. Le thème que nous avons lu, « Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose trois fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Enfin, ça c'est assez redoutable, hein, comme histoire. Hein. Faut dire qu'on se trouve dans l'ancienne alliance, mais bon, dans la nouvelle alliance, les choses peuvent aussi se produire dans certains cas. Il est une chose de se repentir, mais il en est une autre d'affronter courageusement la réparation nécessaire. C'est que David devait réparer maintenant. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose d'aller compter des hommes pour savoir. Mais vous avez vu la fois précédente, on a vu la motivation profonde de David, c'est que David n'a pas compté les hommes pour faire tout simplement, eh bien, un comptage anodin. Mais c'est par orgueil qu'il l'a fait. Lui, David, l'homme humble. Lui, David, que l'on connaît dans d'autres aspects, qui est capable finalement, eh bien, de montrer toutes les qualités d'un homme de Dieu. Mais c'était par orgueil. Alors, voilà que les choses arrivent. Dieu lui dit, ben voilà, il y a trois fléaux qui sont devant toi. Et il faut maintenant, eh bien, affronter la réparation. C'est peut-être ce qu'on oublie facilement quand nous péchons, c'est que le pardon du péché n'implique pas toujours le retrait des conséquences. Oui. Et ça, c'est vrai dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai demandé pardon, c'est fini. Mais dans certains cas, oui. Mais dans d'autres cas, eh bien, il y a des choses, il y a des conséquences. dans les choses indifférentes de la vie, lorsque nous passons des contrats et que nous ne respectons pas les contrats devant les hommes, il va y avoir des conséquences. D'une manière ou d'une autre, surtout quand il s'agit d'argent, vous allez devoir payer. Et comme dit Jésus, vous ne sortirez pas de là que vous ayez payé la dernière pite. Avec les hommes, c'est comme ça. C'est pour ça que David dira « Je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. » On l'a lu il y a un instant. Et c'est vrai que quelquefois, nous oublions que quand il y a réparation nécessaire, le fait de demander pardon, c'est bien, c'est tout à fait logique et normal, mais les conséquences sont là. Malheureusement, elles demeurent, même sous la grâce, et la discipline de Dieu, eh bien, nous fait passer quelquefois par la souffrance, et on va dire pourquoi. Résultat de nos péchés, parce que c'est le résultat de nos péchés. Alors, les conséquences qui suivent, certaines infractions sont inévitables, faut le rappeler. Nous agissons avec Dieu trop souvent comme avec nos fautes, comme avec les fautes que nous commettons au code de la route. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est-à-dire, nous essayons de faire sauter l'amende. Aujourd'hui, ça se fait de moins facilement. Il y en a très peu. Mais il fut un temps... Ça passait très bien. Il y avait des milliers, des centaines de milliers d'amendes qui s'en allaient comme ça. Bon, voilà. Mais bon. Et c'est un petit peu ce que nous faisons en disant, Seigneur, bon, je t'ai demandé pardon maintenant. Mais il y a une raison à cela. On veut bien de la faute, mais sans l'amende. Et pour David, eh bien, il a fallu qu'il y ait naturellement quelque chose qui porte à la réparation. Alors Dieu présente à David un choix terrible qui mettait la sincérité de sa repentance à l'épreuve. Parce que quand on est repenti, on accepte. Quand on n'est pas vraiment repenti, on ne peut pas accepter la discipline de Dieu. Et pourtant, cette discipline de Dieu, elle est là pour nous faire grandir, pour nous amener à être débarrassés de notre péché. Parce que tant qu'il n'y a pas de repentance sincère, il n'y a pas de débarras du péché. On reste avec notre péché et puis on va tourner en rond très longtemps encore dedans. Et je pense que ça, c'est la pédagogie de Dieu. Le but a un but pédagogique. Vous savez ce que nous dit Pierre dans le chapitre 4, versets 1 et 2, il dit « Armez-vous de cette même pensée, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » On s'est quelquefois posé la question nous-mêmes. On s'est dit « Mais on a quelquefois à se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, à certaines choses qui nous collent à la peau. » Et on est tombé sur le verset de Pierre en disant « que nous sommes exhortés à nous armer de cette pensée, c'est-à-dire à nous faire dans notre tête et dans notre cœur, dans notre vie, que quand on en a fini de souffrir dans la chair, on en a fini avec le péché. Le péché agite notre chair, et il veut nous détruire, il veut nous faire mourir avec ça. Mais quand on souffre du péché, et je dis que c'est encore une grâce de souffrir du péché, même si c'est amer, même si c'est difficile, même si nous en croyons en mourir quelquefois, c'est à travers ça que Dieu va nous guérir et nous amener à grandir. Alors, c'est un verset difficile à comprendre, à interpréter, et puis d'autant plus à vivre. Et s'il y a eu cette discipline de Dieu à l'égard de David, c'est qu'il voulait, que Dieu voulait que David soit guéri de son orgueil et de sa prétention par rapport à ce dénombrement. Je vais terminer d'ici quelques instants. Je voudrais rappeler une chose. Si ou quand nous pratiquons le péché, nous déclenchons contre nous-mêmes un processus de mal, ça c'est inévitable, dont nous aurons beaucoup de peine à nous défaire, et quelquefois dans le temps. Dieu sait à l'avance combien nous aurons à en souffrir, et il veut nous l'éviter. C'est pour cela que nous sommes mis en garde de ne pas toucher au péché, de ne pas aller vers le péché. Mais il veut nous l'éviter. Et David va donner la preuve qu'il accepte le verdict qui est terrible, on l'a vu, la discipline de Dieu, il va l'accepter, et cette acceptation de David va faire la preuve qu'il s'est véritablement repenti. Et c'est vrai que nous aurions tort de nous rebeller, et par défaut d'intelligence spirituelle, parce que quand nous sommes conduits à cela, c'est que Dieu ne veut pas nous détruire, il veut nous sauver, même à travers nos fautes. C'est pour ça que le rejet de quelqu'un qui pêche ne nous appartient pas. Quelquefois, il y a des gens qui sont sortis de l'église, on les a mis à la porte de l'église, parce qu'ils avaient péché. Mais c'est pas l'attitude à avoir. c'est de pouvoir non pas les accepter comme ils sont, non pas accepter leurs péchés, mais de travailler à les amener à comprendre et à faire en sorte un bout de chemin avec eux pour les amener à prendre conscience, parce qu'ils sont perdus complètement si on les rejette. Comprenez ? Et Dieu a bien envoyé le prophète Gad, un homme de Dieu, ou un enfant de Dieu, on pourrait dire aujourd'hui, pour aider David. Mais si ça avait été le contraire, David, on n'entendait plus parler de lui. Et toute son histoire d'avant ne serait même pas marquée dans la Bible. Et ça, c'est quand même important. Et je crois que l'Église doit avoir cette dimension spirituelle de compréhension que quand quelqu'un vient, quand quelqu'un revient parmi nous, baptisé du Saint-Esprit, et qu'il a fait des fautes, je pense qu'il y a toujours des conséquences. Mais il faut l'aider à assumer ses conséquences. Il faut l'aider à reprendre pied. Parce que autrement, il n'y aurait jamais de suite. Et on serait perdu à ce moment-là. Alors, ça c'est important de... Parce que souvent, nous sommes les artisans de notre propre malheur et de notre propre souffrance. Je termine sur ce que nous dit les Lamentations de Jérémie. Il dit cette parole, qui est évidente, me semble-t-il, dans Lamentations chapitre 3. Et au verset 37, il dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? Oui, on a commencé à lire que la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël. Et ça mis en excitation David qui a fait le dénombrement. Alors on peut le dire, hein. Donc, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? Les fléaux qui allaient arriver sur Israël, c'était encore le Seigneur. Mais dans un but pédagogique, pas dans un but de destruction. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Alors, on comprend que David n'avait pas à se révolter. Il nous donne l'exemple de ne pas nous révolter. Pourquoi l'homme vivant se plaindait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ? En tous les cas, David avait compris que s'il y en avait un qui était responsable, et qui était responsable de tout ce qui allait arriver sur Israël, c'était lui. On verra la suite une autre fois, parce qu'il y a quelque chose à atteindre dans ce cheminement. Parce que là, je prends les choses un petit peu en décousu. Le temps nous manque, mais on verra que tout cela nous mène à la croix. Tout cela nous mène non pas à la loi, mais à la grâce par la voie de l'expiation de la mort de Jésus à la croix du calvaire. C'est une leçon beaucoup plus profonde qu'elle nous apparaît à travers cette simple faute de David, à travers le dénombrement. Alors, que Dieu nous bénisse, et nous allons simplement terminer en priant maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons être à ton école. Et qui peut se prévaloir, qui peut affirmer qu'il n'a jamais péché et qu'il ne péchera jamais. Nous voyons que l'homme, selon le cœur de Dieu, qui s'appelle David, a commis aussi dans sa vie des erreurs. Mais il y a une chose qui ressort, c'est que à chaque fois que la voix de Dieu est venue parler à son cœur ou sa conscience, eh bien il s'est remis en cause. Et il n'a pas tergiversé pour trouver des prétextes, des excuses. Et c'est ce qui lui a permis, non seulement de pouvoir accepter, Seigneur, en te faisant confiance, la réparation, ou tout simplement la réhabilitation, la guérison et le salut, par le fait même, Seigneur, que il s'est incliné devant toi et a reconnu sa faute. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous savons, Père éternel, que tu nous as donné comme discipline de relèvement, la prière de la foi. Tu nous as donné, Seigneur, également ta parole, les prophéties. Tu nous as donné la communion fraternelle. Tu nous as donné les conseils, peut-être, de quelqu'un ou de quelqu'une avisé par le Saint-Esprit de nous parler pour nous aider. Puis nous croyons, Seigneur, que, comme cela est dit dans les livres des Hébreux, que tu châties ceux que tu aimes. C'est-à-dire que ce mot châtiment n'est pas à comprendre dans la punition, mais dans une éducation des enfants de Dieu, pour que nous apprenions, Seigneur, lorsque nous avons souffert suffisamment de la chair, dans la chair, eh bien nous en finissions avec le péché. Seigneur, c'est ton école, et l'école de tous les temps. Alors, Seigneur, aide-nous à être humbles, aide-nous à être modestes, aide-nous, Seigneur, à comprendre, en effet, Père éternel, les leçons, qui ne sont pas des leçons de destruction, mais des leçons pour grandir, et devenir des hommes, des femmes faits en Jésus-Christ, donc des adultes dans la foi. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.